Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Dieu a besoin d'un canal et il appelle des hommes qu'il transforme en serviteurs afin de pouvoir agir sur la terre. Parce que Dieu, il a créé le monde, il a établi des lois, mais lui-même aussi respecte les lois qu'il a établies. C'est pour cela que pour que Jésus vienne sur la terre, il a fallu qu'il vienne au travers du ventre d'une femme. Dieu est tout puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout puissant. Il aurait été capable de faire descendre Jésus du ciel. Comme on a entendu la voix le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert, une voix s'est faite entendre. Les cieux, ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il aurait pu faire pareil pour faire descendre Jésus du ciel jusqu'à nous sur la terre. Mais la Bible déclare, il a fallu que Jésus naisse au travers des entrailles d'une femme. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, respecte les lois qu'il a établies. De même, lorsqu'il veut parler, il est rare aujourd'hui d'entendre Dieu parler du ciel. Ça peut arriver. Mais il est rare qu'on entende Dieu parler du ciel et dire « Jean-Yves, je suis ton père. Je t'appelle aujourd'hui. » C'est vrai que ça s'est produit au temps de Moïse sur la montagne. Ça peut encore se produire aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Mais très souvent, Dieu nous parle au travers d'un homme. Et c'est pourquoi il a inspiré des hommes pour écrire la Bible. Alléluia. Donc moi, je ne suis qu'un canal qui va utiliser ce matin pour vous parler, mais pour me parler aussi à moi-même. Parce que parfois, je me surprends en train de dire des choses qu'en réalité, je n'ai pas préparées et qu'à temps normal, je n'aurais pas pu dire. Donc ce matin, Dieu a mis sur mon cœur un thème. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 26. Nous lirons tout le chapitre et ensuite je vous donnerai le thème de notre partage ce matin. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment, l'alliance que j'ai faite à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc Isaac plaisantait avec Rebecca. Alors, si tu as un mari à côté de toi, dis, plaisante un peu avec ta femme. De temps en temps. Plaisante un peu avec ton mari. Parce que franchement, les sourcils foncés tous les jours, c'est pas bien. Alléluia. Voyez-vous, souvent, on qualifie les gens de l'Ancien Testament comme étant des gens qui étaient assez traditionnels, assez machos, qui ne savaient pas être romantiques. Mais la Bible nous dit ici qu'Isaac plaisantait avec sa femme. Genre, il faut plaisanter avec lui. Alléluia. C'est important. Alléluia. Donc, Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca. Isaac plaisantait avec sa femme. Ok? Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint riche, fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ils étaient jaloux. Dis à ton frère que quand tu commences à prospérer, les gens sont jaloux, dis que c'est un signe que Dieu te bénit. Alléluia. Réjouis-toi. Alléluia. Parce que si tu es béni et que tu n'attires pas des jaloux, pose-toi si c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais c'est fait aussi suivre des jalousies. La parole de Dieu le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ça se fasse suivre des chagrins. Oh, pourquoi il m'en veut? Oh, mais ce n'est pas possible. Pas de plainte. Bénis l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, il était riche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait des troupeaux, de gros domaines de bétail. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs, on est au verset 15, de son père Abraham, alléluia, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Dis à ton frère, c'est des jaloux. Mais Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ah, quand tu commences à être dangereux, on commence à te chasser, mais ce n'est pas grave. Dis à ton frère, ce n'est pas grave. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits. Il dit que si on ferme les puits de tes pères, creuse d'autres. Alléluia. Ne te décourage pas. Creuse d'autres puits. Il creusa de nouveaux puits. Alléluia. De nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il s'appela Rehoboth. Il l'appela Rehoboth car, dit-il, l'Éternel nous met maintenant au large. Et nous prospérerons dans le pays. Rehoboth, l'Éternel nous met maintenant au large et nous prospérerons dans le pays. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est Rehoboth, l'Éternel te met au large. Alléluia! Rehoboth, l'Éternel te met au large. Bien-aimé, depuis un certain temps, Dieu nous parle au sujet des choses qui sont en gestation pour cette année pour nous. Alléluia! Nous sommes toujours dans l'année de l'enfantement et nous croyons que autant nous avons commencé à enfanter beaucoup de choses, de bénédictions que Dieu avait déposées dans nos entrailles. Autant nous savons que l'année n'est pas encore achevée et que jusqu'au 31 décembre, nous continuerons à enfanter. C'est pourquoi pour le restant des mois de cette année 2009, nous allons rentrer dans l'accomplissement. Alléluia! Donc c'est une année académique d'accomplissement pour accomplir ce qui reste de l'année de l'enfantement. Et Dieu a mis sur mon cœur ce message depuis un temps pour dire, dis à mon peuple et encourage mon peuple pour lui dire, je le mets au large en cette année. Dès ton frère, Dieu te met au large. Rehoboth, Dieu te met au large. Alléluia. Et quand vous lisez la suite du passage, lorsque l'Éternel a mis au large Isaac, la Bible déclare que le roi des Philistins et ses soldats sont revenus voir Isaac pour chercher à faire alliance avec Isaac afin qu'effectivement Isaac, puisqu'il était devenu très puissant, puisse effectivement devenir leur ami. Bien-aimé, lorsque tes ennemis vont te chercher querelle, ne cherche pas à combattre avec les armes de la chair. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel te mettra au large, tes ennemis reviendront vers toi. Ils vont se prosterner à tes pieds. Et ils chercheront à devenir ton ami. Tes amis. Ils chercheront à faire alliance avec toi. Nous revenons sur notre thème. Rehoboth, l'Éternel te met au large. J'aimerais nous partager ici un processus par lequel Dieu passe pour nous mettre au large. Ce que Dieu fait pour nous mener au large. Et au travers de ce texte, nous allons partager quelques principes qui vont nous aider à comprendre comment Dieu travaille pour nous propulser au large. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est vraiment que nous soyons au large. Dieu ne veut pas que nous puissions être dans la vallée. Voyez-vous, Isaac s'est retiré dans la vallée. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la vallée. Alléluia. Lorsque Abraham, son père, s'est séparé d'avec Lot, parce que Lot l'avait brimé, Abraham n'a pas discuté de terrain avec Lot. Abraham s'est séparé d'avec Lot. Lot a choisi la plus belle partie du territoire, la partie de la plaine. Mais c'est pas grave. Abraham est resté tranquille, faisant confiance à l'Éternel. Il s'est retrouvé dans un endroit appelé Cana. Et selon certaines recherches, on dit que l'endroit où se trouvait Abraham, c'était un ravin. Mais de cet endroit, Dieu va faire sortir Abraham et va le propulser au large. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Isaac était dans une vallée, c'est pas grave. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, cette année, Dieu te sortira de là et il va t'emmener au large. Ce message est un message prophétique. Et je prie que tu saisisses la pensée de Dieu et que tu dises, ça c'est pour moi. Et chaque fois qu'une révélation sera libérée, tu dis, Seigneur, ça c'est pour moi, alléluia. Si tu as envie de crier, amen, crie amen. Si tu as envie d'acclamer, acclame, tu dis, ça c'est pour moi, alléluia. Et comme David disait, je serre ta parole dans mon cœur, tu la serres, ça c'est pour moi, alléluia. Afin de ne point pécher contre toi, afin de ne point passer à côté du but, afin de ne point passer à côté de ma destinée, je serre la parole que Dieu me donne. Ce que Dieu fait pour nous mener au large. Premièrement, au verset 1 du chapitre 26, la Bible nous dit qu'il y eut une famine dans le pays où était Isaac. Il y eut une famine. Et j'aimerais ressortir ici un point important. Chaque fois que dans votre vie, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, chaque fois que dans votre vie, la famine se pointe à l'horizon, vous devez comprendre que c'est un signe qui nous montre que Dieu est sur le point de nous mener au large. Alléluia. Et la famine ici, c'est le symbole des crises, c'est le symbole des problèmes, des difficultés, des épreuves que nous pouvons traverser dans la vie. Chaque fois que tu es dans un endroit, dans un pays, dans ta maison, dans tes études, dans ton travail, et qu'une crise s'amène à toi, qu'une situation difficile s'amène, même dans tes relations, que des problèmes viennent à toi, que même dans ton corps, que peut-être la maladie se pointe à l'horizon et commence à attaquer ton corps, chaque fois qu'une situation difficile arrive, chaque fois que la famine se pointe à l'horizon, tu dois te mettre en idée une seule chose, c'est que c'est un signe que Dieu te montre qu'il est sur le point de te mener au large. Alléluia! Et aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous n'allons jamais échapper aux problèmes. Nous n'allons jamais échapper aux crises. Nous n'allons jamais échapper aux épreuves. Donc, ne priez jamais Dieu pour qu'il vous enlève les épreuves. Parce que ça fait partie des prières que Dieu n'exauce pas. Alléluia! La Bible déclare qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que c'est pas des prières conformes à sa volonté. Donc quand vous priez que Dieu vous enlève les problèmes, vous enlève les épreuves, vous enlève les difficultés, en réalité vous priez à côté de la volonté de Dieu. Parce que les difficultés, vous en aurez toujours. Et je vous en souhaite d'en avoir toujours. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen là. Alléluia. Nous comprenons pourquoi. Parce que le problème n'est pas d'avoir les problèmes. Mais le problème, c'est de savoir résoudre les problèmes. Quand le problème que tu rencontres a trouvé une solution, alors le problème n'est plus un problème. Mais le problème devient un tremplin pour te mener au large. Alléluia. Ce qui est important dans les temps d'épreuve, ce n'est pas l'épreuve en elle-même. Mais c'est l'attitude que nous allons avoir au sein de l'épreuve qui déterminera ce que nous serons demain. Et j'aimerais que vous puissiez noter ceci. Notre attitude au sein de l'épreuve va déterminer notre altitude. Si tu veux aller au large, prendre l'altitude, il te faudra avoir une attitude. Quand vous lisez la parole de Dieu, quel que soit le serviteur que Dieu a appelé, depuis le temps d'Abraham jusqu'à Jésus, même après Jésus, il n'y a aucun que Dieu a appelé qui n'ait connu des épreuves, qui n'ait connu des problèmes. Vous prenez Abraham, il a vécu des situations difficiles dans sa vie. Presque pendant 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Pendant 100 ans, presque, sa femme était stérile. Vous voyez, Abraham, quand il a son premier fils, Isaac, le fils de la promesse, sans compter Ismaël, le même Dieu qui lui a fait la promesse lui demande encore cet enfant-là. Quelle épreuve! Dis à ton frère, Dieu, que veut-il? Il me fait attendre pendant presque 100 ans. Le jour où la promesse s'accomplit, il me demande encore de sacrifier mon fils. Dieu, que veut-il? Vous voyez, Jacob, il a travaillé pendant plusieurs années chez Laban. La Bible déclare qu'il prospérait, il faisait prospérer les affaires de Laban. Mais quelle injustice il a connue! Quelle injustice! Il a été brimé 10 fois. Il n'a pas eu son salaire. Mais pourtant, Dieu va changer le nom de Jacob. Il va changer son nom, il va l'appeler Israël. Et celui qui est devenu aujourd'hui le père d'une multitude de nations. Parce que la promesse d'Abraham s'accomplit en lui, les 12 tribus d'Israël. Et la femme qu'il aimait le plus est morte dans le désert. Si je prends le cas de Joseph, il a perdu ses parents pendant plusieurs années. Il ne les voyait plus. Ses frères l'ont presque tué. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte, coupé des siens. Et pendant plusieurs années, il a vécu seul. Sans l'amour de son père qu'il aimait tellement. Sans l'amour de ses frères que lui aussi aimait, mais même si eux ne l'aimaient pas vraiment. Sauf Judas quand même. Hein. Alléluia. Mais Joseph, malgré son innocence, va se retrouver quand même en prison. Pour avoir été accusé de viol ou de tentative de viol sur la femme de son chef, Potiphar. Mais Dieu est tellement bon, alléluia. Parce que de la prison, du fin fond de la prison où était Joseph, le Dieu de Rehoboth, alléluia, va sortir Joseph de la prison de la fosse, de la vallée, et va le propulser au large, au sommet de la gloire. Joseph se retrouve gouverneur de l'Égypte. En train de gouverner l'Égypte. Au point que le roi égyptien, Pharaon, dit à Joseph, en réalité, quand je te regarde, quand je vois ton intelligence, quand je vois tes compétences, quand je vois ton charisme, quand je vois ta façon de travailler, tes stratégies, entre toi et moi, la seule chose qui nous sépare, c'est le trône. Donc, en d'autres termes, Pharaon reconnaît que s'il y a quelqu'un qui mérite vraiment de diriger ce pays, c'est Joseph. Donc, de façon informelle, Joseph était un roi bis de la prison. Un prisonnier qui devient roi bis. L'Éternel le met au large. Mais pas sans épreuve. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'Éternel le met au large. Et si je vous parlais de Moïse, quelqu'un qui ne savait pas parler. Sa naissance est bizarre. Le jour même de sa naissance, l'enfer s'est levé. Satan a donné des ordres à tout son quartier général. Tuez tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés mâles. Tuez-les, Hébreux, les enfants des Hébreux. Tuez-les. Objectif, atteindre Moïse. Sa mère va se séparer de lui. Va le mettre dans une corbeille. Va le déposer sur un fleuve. En destination d'où elle ne savait même pas. Mais vous savez très bien que les fleuves, les mers, c'est des lieux à haut risque. Il s'en est fallu de peu pour qu'un serpent sorte et rentre dans la corbeille. poumons de l'enfant et qu'il meure. Ou encore qu'un requin sorte de quelque part. Oh là là, il y a de la viande, du gibier. Alléluia. Bon, je ne sais pas si les requins disent alléluia. Vous comprenez? Mais la Bible déclare que Moïse était beau de figure. C'est-à-dire que Moïse avait une grande destinée. C'est pourquoi, au-delà des épreuves que Moïse pouvait traverser, la main de l'Éternel était sur sa vie. Alléluia. C'est la main de l'Éternel qui va récupérer la corbeille, qui va faire passer la corbeille au travers de chemins assez sécurisés, des fleuves et des mers, à destination d'un endroit bien précis où se trouvait effectivement la fille de Pharaon. Alléluia. Et Moïse arrive là, il est recueilli par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon est intéressée par l'enfant, ne sachant pas qu'en fait, c'était un enfant hébreu. Dieu va permettre que les enfants hébreux que Pharaon voulait tuer, Moïse soit celui-là que d'ailleurs le diable voulait atteindre, que Pharaon en réalité sans savoir voulait atteindre. Il va sortir de là, le faire rentrer dans sa propre maison. Alléluia! Et c'est lui qui va le nourrir, qui va l'éduquer, qui va le blanchir, qui va le gâter. Alléluia! Qui va l'instruire. Alléluia! Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu! L'Éternel le met au large. Et la Bible déclare que Moïse était quelqu'un qui était instruit de toute la sagesse de l'Égypte, de la connaissance de l'Égypte. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on dirait que Moïse avait en réalité au moins un master ou encore un doctorat. Sinon, une agrégation. Alléluia! Alléluia! Mais qui a payé ses études? Son propre ennemi. Qui a payé l'école? Aujourd'hui, nous, on est chrétiens, on prie fort pour avoir l'argent. C'est la rentrée, là. Les étudiants, on prie fort pour avoir l'argent pour financer nos études, n'est-ce pas? Mais Dieu est capable de se servir de tes propres ennemis pour payer tes études. Or, si tu le crois, dis Amen, alléluia. Alléluia! Vous savez, un jour, vous savez, j'avais besoin d'argent pour faire mes études. J'avais pas de bourse. Et j'avais rencontré des situations très difficiles parce que, bon, je passe outre certains détails, la discrimination, le racisme. Et dans mon cœur, l'ennemi commençait à dire, mais tu vois, tu n'es pas le bienvenu dans ce pays. On ne t'aime pas. Ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que tu as vu faire ici? J'étais surpris. Les mêmes personnes sont celles qui ont signé mon dossier. Je me souviens encore de cette dame-là qui a dit, franchement, tu es un rêveur. Tu penses que dans ta situation, tu peux mériter un financement? C'est la même dame qui, quand elle a vu le dossier signé par le directeur général de la DDTE, elle ne pouvait plus rien faire. Ça m'a déposé son cachet, elle a signé. Oh, alléluia! Depuis ce jour, elle a compris que j'étais vraiment un rêveur. Alléluia! Et Moïse a connu ça, mais l'Éternel l'a mis au large. Je pourrais vous parler de Ruth. Ruth a perdu son mari. Elle a perdu tout ce qu'elle avait de chair. Elle ne pouvait même plus repartir dans son pays. Est-ce que vous savez pourquoi Ruth ne pouvait pas repartir dans son pays comme sa sœur, comme sa belle-sœur Orpa? Il y en a qui se disent que non, c'est parce qu'elle était attachée. C'est vrai, c'était attachée. Elle était liée d'alliance à Naomi, c'est vrai. Mais Orpa encore savait qu'elle avait de la famille. Mais Ruth savait une chose. C'est que Moab, pays de malédiction, il ne lui restait plus personne là-bas. La sorcellerie avait tué tout le monde. Alléluia! La sorcellerie avait tué tout le monde. Plus de père, plus de mère, plus de soeur. Moab, ça ne blaguait pas là-bas. Pays des malédictions. Tu n'as pas encore vu ce qu'on appelle vampire. Tu vas à Moab, tu vas voir vampire. Donc, Ruth savait que là-bas, il n'y avait plus d'espérance. Alléluia. Plus d'espérance. Mais Dieu l'a sortie de là. L'a propulsée au large. Elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Le temps me manquerait pour vous parler d'Esther, de David, de bien d'autres personnages qui ont vécu dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, pour vous montrer que les épreuves font partie intégrante de notre parcours sur la terre. Et c'est normal, c'est vraiment normal. Vous savez, si quelqu'un va à l'école et qu'il passe les classes sans passer les examens, ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez déjà vu un étudiant qui va à l'école, il passe de classe en classe, classe supérieure, sans passer des épreuves. À chaque fin de trimestre, il y a une épreuve. Parfois, même le jour où tu arrives, tu n'as même pas prévu. Épreuve surprise. Interrogation, surprise. Voyez-vous, nous ne pouvons pas passer en classe supérieure si nous n'avons pas été éprouvés. Et la vie est faite ainsi. L'épreuve nous mène au large. Je dois aller en terminale si je n'ai pas passé mon bac. Vous suivez. Alléluia. Acclamez-vous vous-même. Je ne peux pas aller en fac sans passer mon bac. Sinon, je resterai là en terminale. Alléluia. Donc, si je veux aller au large, si je veux aller jusqu'au doctorat, il me faut obligatoirement passer le bac. Après le bac, il me faudra passer le DS. Bon, certains appellent ça le DUT. C'est ça, non? Le DUG. Après, non. D'abord, bac plus 2. Après, bac plus 3. Après, bac plus 4, maîtrise. Bac plus 5, master. À chaque étape, il y a une épreuve. Donc, je ne peux pas aller au large jusqu'à bac plus 7, bac plus 10, bac plus 12, bac plus 24, si vous voulez. Je ne peux pas aller au large sans un chemin.
Je ne peux pas aller au large sans un chemin d'épreuve.
Dis à ton frère que si tu priais pour ne plus avoir des épreuves, arrête de prier. Change de prière.
Si tu priais pour ne plus avoir des épreuves, arrête de prier. Change de prière.
Change de prier. La différence entre nous
change et de façon de prier.
C'est que nous avons tous des épreuves.
C'est que la différence entre nous et les gens du monde, c'est que nous avons tous des épreuves.
C'est qu'à partir de notre parcours.
C'est vrai.
Sauf que les gens du monde,
c'est normal.
Eux, ils savent pas comment.
À partir de notre parcours. Sauf que les gens du monde.
Alors, ils utilisent des raccourcis.
Eux, ils savent pas comment gérer les épreuves.
Ils utilisent parfois des stratagèmes qui ne sont pas honnêtes. Ils sont prêts à tout faire pour parvenir et aboutir à leur fin. Et pendant l'épreuve, les gens du monde paniquent. Ils stressent, ils ont peur du lendemain, il leur manque d'espérance parfois, et beaucoup se donnent la mort. Ils se suicident, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Mais nous les chrétiens, c'est différent. L'épreuve vient, mais la Bible déclare que nous devons supporter avec patience et avec joie, okay, les épreuves auxquelles nous sommes soumis. Sachant que l'épreuve de notre foi produira des vertus de Dieu en nous. Donc, la différence, c'est que, en tant que chrétien, au sein de l'épreuve, Dieu nous donne d'éprouver la joie du Saint-Esprit. Au sein de l'épreuve, Dieu nous donne la grâce d'expérimenter la paix. Au sein de l'épreuve, Dieu nous donne la grâce d'expérimenter le repos, l'assurance. Ça veut dire qu'en fait, ton compte bancaire, et toujours à découvert, mais tu dors le cœur tranquille. Le païen, il va commencer à rêver. Les lettres de la banque qui commencent à défiler, les lettres recommandées qui commencent à arriver. Il rêve tellement que le lendemain, le facteur viendra lui donner une lettre recommandée. Il est sous pression. Et toi, tu es dans le repos. C'est ça la différence. C'est l'attitude. Notre attitude au sein de l'épreuve nous propulse vers notre altitude au large. Deuxième point important. On est au verset 2. Cette année, Dieu veut te mener au large. C'est pourquoi l'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte. Au sein des épreuves, avant que Dieu nous mène au large, il s'arrange, notre Dieu, à se révéler à nous. Le problème, c'est que nous, quand on est dans l'épreuve, il y a tellement de voix qui parlent au-delà de nous que nous ne prenons plus garde aux instructions que Dieu veut nous donner. Mais en réalité, au sein de l'épreuve, Dieu nous parle toujours. C'est nous-mêmes qui ne prenons point garde. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Et quand nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 14, verset 18, Job chapitre 33, autant pour moi, verset 14 à 18, Job 33, verset 14 à 18, il est écrit ceci. Dieu nous parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Notre attitude au sein de l'épreuve doit être d'être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Si nous développons des pensées négatives, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 21, que nous-mêmes, nous devenons ennemis de notre propre vie, de notre propre destinée, de par nos pensées. Il dit, ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Ennemis par vos pensées et vos mauvais comportements. Ennemis par vos pensées et votre mauvaise attitude au sein de l'épreuve. Vous vous rendez vous-même ennemis de votre propre destinée. Et la Bible déclare que les rêves, les songes, naissent de la multitude de pensées. Cela veut dire que si au sein de l'épreuve, je développe des pensées négatives, je développe de mauvaises pensées, je développe la crainte, je développe la peur, je développe le doute, je développe l'incertitude, il est certain que quand je vais dormir, je vais rêver, je vais avoir des songes qui me montrent que je vais échouer. Si à la veille d'un examen, tu commences à avoir peur, tu stresses, tu commences à penser à ce prof qui est vraiment très dur avec toi. Tu commences à dire, si c'est vraiment lui qui corrige ma copie, je sais que là, je suis foutu. Alors là, c'est, oh là là, surtout pas lui. La Bible déclare que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteindra. Donc, ton attitude doit être de libérer ton être intérieur de tout ennemi de ton âme pour te rendre disposé spirituellement à écouter Dieu. Parce que voyez-vous, lorsque les eaux sont troubles, on ne voit plus clair le fond des mers. On ne voit plus clair le fond des eaux. Et notre cœur est ainsi. Quand il est agité, on ne voit plus clair ce qu'il y a au fond de nous. Mais voyez-vous, il peut y avoir un précieux trésor au fond d'une mer, un précieux trésor au fond d'un lac, mais si le lac est boueux, si le lac est agité, on n'aura pas la capacité de distinguer les pierres qui sont au fond du lac des trésors qui sont au fond du lac. Donc, il est important de laisser les eaux se calmer. Quand tu es agité au-dedans de toi, tu dois savoir une chose. Dieu a certainement quelque chose à te dire. Alors, la Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et dans le repos, que sera ta force. Alléluia! Ressaisis-toi, concentre-toi, prends la parole de Dieu, lis-la, écoute la louange, adore le Seigneur, prie un instant, lève-toi, sors un peu de la maison, va faire un tour, peut-être au parc, va un peu faire du sport, ça peut t'aider. Décompresse. Il y en a ici qui ne font même plus de sport. Non seulement tu ne fais pas de sport, donc tes muscles sont complètement retrécis. Non, pas retrécis quand même. Les sportifs, entraîneurs, coach, on dit quoi? Atrophié. Ça, c'est un vrai coach. Civicals. En plus, tu t'ajoutes d'autres maladies par les soucis. Non, écoute, on a vu l'importance du corps pendant la conférence. Alléluia. Sors un peu. Libère tes pensées. Des fois, si tu sens que, bon, vraiment, tu n'as pas envie de lire un peu la parole de Dieu, ce n'est pas grave, laisse la parole de Dieu. Okay. Prends un bon livre, super intéressant, une histoire, pas n'importe quel livre, mais une histoire qui n'a rien à voir avec la Bible. Commence un peu à lire. Laisse ton esprit un peu vaquer à autre chose. Oublie un peu ce que tu as. Mais c'est sérieux. Parce que vous savez, notre pensée a besoin d'être éduquée. Notre pensée a besoin, notre mental a besoin d'être en activité. Quand ton mental est en activité, il n'a plus le temps de penser à autre chose. C'est pour cela que la Bible déclare que nous devons méditer sa parole jour et nuit. Quand tu médites, tu réfléchis, tu te poses des questions, tu as des réponses sur ce qui est bien. C'est pourquoi il t'écrit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, un bon livre, alléluia, ou bien un bon film. Oh pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes?
Oui,
un bon film, très intéressant, instructif. Moi, j'aime bien les films d'humour. Eddie Murphy, par exemple. Alors, il y a des collègues qui m'ont dit que toi, tu dois être le frère d'Eddie Murphy. Parce que tu lui ressembles. Bon, je ne sais pas vraiment si on se ressemble. C'est pas vrai, non? Bon, je suis sûr qu'ils voulaient vraiment me taquiner, n'est-ce pas? Ils ne sont pas gentils, hein? Alléluia! Mais ce qui est vrai, c'est que j'aime bien regarder Eddie Murphy. J'aime bien les films d'humour. Et je sais, je rigole. À la maison, quand je reviens du travail, je rentre à la maison, je le pose ma mallette, je commence à rigoler avec ma fille, avec mon fils, on rigole. Hier, je l'ai amené sur les quais, on est allé jouer au ballon. Il dit, papa, je vais aller au quai. Je n'avais pas de tenue de sport. J'étais en pantalon avec chaussures Indus. Bout pointu. Chemise. On est parti. On a joué au foot. On a joué pendant au moins une heure. On a laissé sa maman et la fille garer quelque part. Ils étaient en train d'écouter la louange. Elle passait, faisait son télépastorat. Et nous, on jouait. On est rentré de là complètement fatigué. On transpirait, mais on était content. Et quand je suis rentré à la maison, après une bonne douche, quand je viens à prier, alléluia, ou l'inspiration, rebot! Oh, acclamons le Seigneur, alléluia! Rebot! La pensée est ouverte et je reçois. Oh, Jesus. L'activité mentale, l'activité physique, vous décompressez, vous laissez libre cours aux bonnes pensées et surtout à la pensée de Dieu. Alléluia! Et je suis sûr et certain que Dieu va vous parler. Parfois, Dieu peut vous parler même au travers d'une circonstance. Même en regardant un film qui n'a rien à voir avec la Bible, hein, il vous parle. Tu vois ce personnage-là? En fait, il ressemble à tel dans la Bible. Et c'est parti. De là peut naître un message. Il ne faut pas limiter Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Psaume chapitre 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc avant de nous amener au large, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre le temps de nous parler. Il va prendre le temps de nous enseigner. Il va prendre le temps de nous instruire. Il va prendre le temps de nous expliquer certaines choses pour que lorsque nous serons au large, nous puissions être fondés sur des bases solides. N'ai pas encore vu quelqu'un qui se retrouve au sommet de la gloire sans fondement. J'aime bien cette pub que je regardais, on ne la montre plus. C'est un monsieur qui a gagné au loto. Ou au millionnaire, je ne sais plus trop. Il est devenu hyper riche, des millions d'euros. Il ne savait plus quoi faire avec. On lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, les femmes. Non, pas les femmes. Les voitures. Non. À la fin, il dit, bon, je vais maintenant aller habiter avec les poules. Vous n'avez pas encore vu ça? Il était devenu fou. Il n'avait jamais été préparé à être millionnaire ou milliardaire. Vous comprenez? Donc Dieu, avant de nous mener au large, il a certainement mis dans ton cœur des projets. Il t'a certainement parlé, il t'a fait des promesses. Tu as certainement reçu des prophéties. Alléluia pour tout ça. Mais il va prendre le temps de te préparer. Il va te parler, il va t'instruire. C'est pourquoi il faut que tu sois tous les jours à l'église, que tu écoutes les messages, que tu prennes les CD, que tu lises la Bible, que tu t'instruises, que tu lises les livres, des bons livres chrétiens. Alléluia. Tu dois être équipé. Tu dois être équipé pour que quand Dieu te mène au large, tu sois solidement enraciné, que tu n'oublies pas l'Éternel. Parce qu'il y en a, Dieu les a bénis, mais comme ils n'avaient pas de fondement, on ne les voit plus à l'église. Au début, quand ils sont venus, ils étaient au premier rang, pour que quand le prophète prêche, il le voit, il commence à prophétiser sur lui. Donc, quand le prophète a parlé, il a reçu sa prophétie, alors il a commencé à se mettre dans les rangs, pour continuer à écouter. Et un autre jour, le Seigneur agit maintenant, l'onction tombe, les portes s'ouvrent, il a maintenant sa bénédiction, son entreprise, il atteint l'objectif. Il dit, ah. Et quand il vient à l'église, on dit, bon, voilà, ce le frère Jean-Yves qui commence à parler. Voilà, on passe autant de dîmes aux offrandes. Il dit, l'affaire là. Bon, il vient, il sort de là, il donne. Il se mêle dans la foule. Mais quand il sort de là, il se met au fond maintenant. Le dimanche prochain, il est maintenant au fond. L'autre dimanche, il est maintenant à la porte là. Un autre dimanche, il est du côté de la cuisine, il fait semblant que, ah, comment allez-vous, etc. Un autre dimanche, vous ne le voyez plus, il a disparu. Arcelin ne voit plus sa voiture au parking. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait aucune instruction qui pouvait effectivement être pour lui une base sur laquelle il pouvait s'assurer que, quel que soit les temps d'abondance, il ne pourra jamais abandonner l'Éternel son Dieu. C'est pourquoi, dans ces temps d'épreuve, avant de nous emmener au large, Dieu prend le temps de nous instruire. D'où les enseignements, d'où les séminaires, d'où les conférences, d'où les coffrets, d'où les livres importants. Il faut lire les livres importants qui concernent réellement vos destinées. Si tu es appelé aux affaires, lis de bons livres qui concernent les affaires. Il y a des chrétiens qui ont écrit de très bons livres sur les affaires, qui ont écrit de très bons livres et qui ont enseigné des principes bibliques comment faire pour devenir riche selon Dieu. Alléluia. Dieu te bénisse. Du verset 2 à 4, l'Éternel lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai l'alliance que j'ai faite à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voyez-vous, la même promesse que Dieu a faite à Abraham, il a faite à Isaac. Notre Dieu, au sein de l'épreuve, garde l'alliance. Au sein de l'épreuve, il garde l'alliance. Avant de nous mener au large, il nous rappelle les termes de notre alliance. Parce qu'il est fidèle. Même quand toi, tu demeures fidèle, que tu commences à t'éloigner de lui, lui garde l'alliance. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, Ésaïe 54, verset 10, il te dit ce matin, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, oh, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera jamais. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oh, vous devriez acclamer cette parole. Alléluia. Vous devriez acclamer cette parole. Avant de te mener au large, Rehoboth, Dieu te rappelle les termes de l'alliance qu'il a signé avec toi. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle à l'alliance. Il garde l'alliance. Même quand tu verras que les choses commencent à chavirer, commencent à bouger de façon négative autour de toi, souviens-toi que l'Éternel garde l'alliance. Je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu es devenu dans ta foi. Même si tu t'es égaré, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus quand tu parles, quand tu pries. Souviens-toi que même lorsque Adam et Ève ont péché, l'Éternel leur a quand même parlé. Il s'est révélé. Il leur a parlé. Il est fidèle. Ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas le péché en réalité, c'est l'ignorance. Quand tu ne connais pas Dieu, quand tu pêches, tu fuis. Et tu te fabriques des habits avec les feuilles, comme Adam l'a fait. Mais pourtant l'Éternel vient vers toi. Il a toujours compassion de toi. Et c'est cette compassion qui fait qu'il conserve son alliance avec toi. Donc quand tu pêches, ne fuis pas. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas les frères. Ne fuis pas le pasteur. Ne fuis pas la prière. Approche-toi de Dieu. Tu as abandonné la Bible depuis longtemps. Tu ne lis plus parce que tu penses que tu es sale devant le Seigneur. Tu n'es pas digne. Il te dit ce matin, il t'attend toujours. Au lieu de la rencontre que vous aviez l'habitude, il n'a pas changé. Son amour est toujours incommensurable pour toi. Et son alliance de paix subsistera toujours dans toute l'éternité. Il te conserve sa bonté, son alliance. Mais toi aussi, n'abuse pas. Non, entre nous, n'abuse pas de son alliance. Alléluia. Quand tu as compris ça, tu dis, Seigneur, maintenant, j'ai compris, garde-moi. Versets 7 à 9, vous lirez ça à la maison. Je vais simplement vous dire ce qu'il est, de quoi il s'agit. Du verset 7 à 9, nous voyons comment Isaac se débat par ses propres moyens à se positionner au sein de ce pays de Guérar. Jusqu'à mentir que Rebecca était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de mourir. Et beaucoup de prédicateurs, on a enseigné, nous tous, on a condamné l'attitude d'Isaac. C'est pas normal. Et c'est vrai que bon, ça paraissait héréditaire parce que son père, Abraham, avait fait pareil en Égypte. Quand il y a eu famine en Égypte, il a fait pareil. Il a menti, non, c'est ma sœur. Mais Dieu a ouvert mes yeux sur un détail. La Bible déclare qu'Isaac ne voulait pas mourir. Isaac ne voulait pas mourir. Mais Isaac a raison. Il ne voulait pas mourir. Et moi non plus, je ne veux pas mourir. Et je ne pense pas que toi, tu veux mourir. Tout le monde veut vivre. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre. Isaac avait compris quelque chose. Dieu avait commencé à le bénir. Il a commencé à sentir que s'il vit longtemps, il deviendra riche et très puissant. Donc Isaac voulait vivre encore longtemps pour voir la gloire de Dieu. Alléluia! Maintenant, par des moyens tout à fait humains, par des stratégies humaines, manque peut-être de connaissances, par ignorance, il a utilisé des stratagèmes pour vouloir demeurer vivant pour ne pas mourir. Mais la volonté de Dieu, c'est que Isaac devait vivre longtemps parce que Dieu avait en réserve pour lui Rehoboth. Si Isaac mourait avant, il n'aurait pas vu Rehoboth. Alléluia! Donc, bien-aimé, Isaac ici nous donne une leçon. Si nous voulons aller au large, nous devons avoir une vision de notre futur. Isaac avait une vision de son futur. Il se voyait déjà au large. Il commençait à percevoir ce que Dieu devait faire avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous vivons le jour le jour. Nous vivons au jour le jour. C'est vrai que la Bible déclare que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Mais ce n'est pas une raison pour nous de vivre au jour le jour. Nous devons avoir une vision pour notre futur. Nous devons avoir un objectif de vie. Quel est ton objectif? Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, je vous poserai la question, qu'est-ce que tu veux faire demain? En fait, j'ai pensé, je voulais faire un peu psychologie, mais finalement, j'hésite un peu entre psycho et sociologie. Bon, en fait, je ne sais pas trop, mais en même temps aussi, je suis assez bon en économie, tu vois. Tu veux quoi dans la vie? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses au mariage? Oui, je pense au mariage, mais bon, en fait, bon, quelle est réellement ta vision du mariage? Bon, en réalité, bon, j'aime bien vraiment avoir des femmes travailleuses, intelligentes. Mais en même temps aussi, je sais que bon, il me faut une sœur vraiment spirituelle. Mais comme je sais aussi que vraiment, c'est pas évident d'avoir les deux à la fois. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ils savent pas ce qu'ils veulent. Au niveau de leurs études, au niveau du mariage, au niveau du travail, tu veux travailler où? En réalité, je sais que bon, je peux faire commercial. Mais finalement, je me rends compte que non, c'est pas commercial qu'il me faut. Non, en fait, finalement, je crois que je vais faire des études en informatique. Et il va essayer l'informatique. Non. C'est trop dur là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la vision que tu as pour ton avenir? Et Isaac avait une perception de son futur. Voilà pourquoi il voulait vivre longtemps. Bien-aimé, la vision fait vivre. Un jour, en suivant la télévision, on a interrogé un homme, un grand homme d'affaires, immensement riche. Il avait quasiment 70 ans. Il était encore, mais vraiment fort. Et son physique paraissait celui, comme celui d'un jeune garçon, peut-être de 30-40 ans. Il était frais. Et on lui pose la question, mais comment faites-vous pour vivre aussi longtemps? Il répond, il dit, je fais deux choses. Premièrement, je fais du sport. Deuxièmement, j'ai une vision. Il n'était pas chrétien. Il dit, il fait du sport pour se maintenir. Et deuxièmement, il avait une vision de son futur. Bien-aimé, si tu as des rêves avec Dieu, tu vivras longtemps. Si tu ne sais pas la vision de ton futur, tu auras du mal à te préparer, à t'organiser pour atteindre le but. Tu n'iras pas loin. Ceux qui vont loin, ce sont ceux qui se préparent. Ceux qui se préparent, ce sont ceux qui ont un objectif dans leur vie. Quelle est ta vision pour tes enfants? Quelle est ta vision pour ta femme? Quelle est ta vision pour ton mari? Quelle est ta vision pour ta maison? Tu te lèves le matin, tu ne sais pas quoi faire. Tu pries par hasard. Au hasard, tout est au hasard. Tu subis la vie au jour le jour. Tu te lèves, tu vas au travail parce qu'en fait, ton patron a dit à 7 heures, tu dois embaucher. À 8 heures, à 17 heures, tu ressors. Donc, en réalité, toi-même, si tu t'examines, si tu enlèves le travail de toi-même, tu n'aurais jamais eu un programme. Le programme que tu suis, c'est celui qui t'est imposé en réalité. Quand tu es seul, tu ne sais plus quoi faire de ta vie, de ton temps. Ça veut dire que tu n'as pas d'objectif dans la vie. Après le boulot, le temps qui te reste, tu fais quoi de ça? On n'a pas ce temps. Il n'y a que 24 heures dans la journée. Et un jour, je me suis surpris en train de prier. Je disais, Seigneur, je t'en supplie, ajoute-moi au moins 4 heures dans les 24 heures. Et je serai heureux parce que je n'arrive pas à trouver du temps pour toutes tes choses. Le Seigneur m'a dit, débrouille-toi avec les 24 heures. Comment les autres font? Il faut planifier sa vie. Il faut avoir un objectif, bien-aimé. Et lui, il avait compris qu'il doit vivre longtemps. Il avait un objectif. Il avait une vision pour son futur. C'est pourquoi à l'église, nous avons une vision. Si nous voulons aller au large, en tant qu'église, il nous faut avoir une vision. La Bible déclare qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu vas faire tout ce qui arrive dans la journée, tu fais. On te dit, en fait, aujourd'hui, finalement, c'est l'autre côté là, on y va. À droite, on y va. À gauche, on y va. Tu es ballotté à tout vent de mouvement, de doctrine. Tu n'es pas quelqu'un de constant. Parce que tu n'as aucune perspective, aucun objectif, aucune vision pour ton futur. Et tu t'étonnes que Dieu n'exauce pas tes prières. Tu t'étonnes qu'en fait, Dieu ne te mène pas au large. Seigneur, tu as dit Rehoboth. Le prophète a parlé, c'était un message prophétique. Il a dit toute l'assemblée, c'est Rehoboth. Toute l'assemblée, mais attention. Si tu n'as aucun objectif, les autres iront, mais pas toi. Alléluia. Mais Dieu veut que tu ailles au large. Avant dernier point, sinon le dernier d'ailleurs. La Bible nous révèle que Isaac a creusé des puits. Malgré le fait que ses ennemis sont venus refermer les puits de ses pères, il a continué à creuser des puits. Jusqu'à ce qu'il creuse un puits sur lequel il n'a point été trouvé querelle. Et il l'appelait Rehoboth. L'Éternel maintenant me mène au large. Qu'est-ce que ça veut dire le puits? Le puits, c'était un trou qui contient de l'eau. Et à l'époque, le puits était quelque chose d'important. Parce que c'était en même temps une source de richesse. Les hommes riches avaient beaucoup de puits. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les hommes riches avaient beaucoup de ressources. Le puits, c'est le symbole de la ressource. En fait, je dirais même mieux, c'est la source d'où proviennent nos ressources. Il est où, Michael? Il doit être content là. Alléluia. Ça veut dire que c'est là que provient notre ressource. C'est là que provient notre trésor. C'est là que provient notre force. C'est là que provient en fait nos capacités. C'est notre source. Notre raison de vivre. Notre raison d'exister. Et la Bible déclare que les ennemis d'Isaac ont attaqué ces puits. Bien-aimé, quand Dieu veut te mener au large, tes ennemis ont un seul objectif, c'est d'attaquer tes puits. Ils vont vouloir détruire tes ressources. Ils vont vouloir détruire ta source. Mais David, le psalmiste, a pu s'écrier, « Toutes mes sources sont en lui. » Alléluia! Toutes mes sources sont en lui. David a compris que sa seule source et sa seule ressource, c'était la présence de Dieu. Alors il a dit à Saül, « Merci Saül, ô roi, vis éternellement. Mais avec tout le respect que je te dois, enlève ton armure. Moi je sais une chose, la source de ma victoire, ce n'est point en toi mon roi, mais c'est en l'Éternel mon Dieu. » Alléluia. Et la Bible déclare que, oui, David est parti au torrent. Et là il a puisé ses sources et ses ressources. Alléluia. Il a puisé de cette source qui est Dieu, ses ressources. Bien-aimé, notre ressource ici, notre source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu avais su qui te parlait, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau à boire. Parce que jusqu'au temps de Jésus, avant que Jésus ne se révèle, les gens vivaient des sources d'Abraham et des puits de Jacob. Ils allaient puiser dans le puits de Jacob. Mais Jésus a dit, l'heure arrive maintenant, où ce ne sera plus dans le puits de Jacob, où vous aurez puisé vos ressources. Oh, alléluia. Mais parce que moi-même, je suis la source d'eau vive. Alléluia. Et si tu savais qui te parle aujourd'hui, toi-même, tu lui demanderais de l'eau. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira dans toute l'éternité. Alléluia. C'est-à-dire que tu boiras, tu n'auras plus soif. Alléluia. Tes enfants boiront, elle ne tarira pas. Alléluia. Ta descendance, ta postérité viendra s'abreuver là. Parce que je suis la source d'eau vive qui jaillit dans toute l'éternité. Oui, je suis Jésus, la source d'eau vive. Et si tu crois en moi, cette source d'eau vive deviendra en toi un fleuve qui jaillira, qui coulera dans toute l'éternité. Qu'on acclame le Dieu de notre victoire, le Dieu vivant d'Israël. Qu'on élève son nom parce qu'il est la source de notre vie. Il est le centre de notre existence. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Il est l'unique en son genre. Nous nous accrochons à lui parce que nous savons une seule chose. Sans Jésus, ma vie n'est rien. Sans Jésus, ma vie n'est rien. Mon avenir n'est rien. Alors il est ma source. Il est toutes mes sources. Il est ma ressource. Et je l'aime. Je l'adore. Je l'exalte. Je le célèbre. Il est mon Dieu. Il est mon puits. C'est en lui que j'irai puiser tous les jours. Le matin, j'irai à la source. À midi, j'irai à la source. Le soir, j'irai à la source. La nuit, j'irai à la source. Il est la source d'eau vive. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Et je dois me battre pour garder la source. Même si mes ennemis essaient d'attaquer cette source, je dois continuer à creuser. Je vais continuer à creuser. Et le diable, son but, c'est de détruire ton intimité avec Dieu. Détruire ton puits, ta relation avec Dieu. Mais tu dois te battre et tu dois continuer à creuser. Là où il a fermé, tu viens, tu creuses encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il attaque, plus tu creuses de nouvelles profondeurs avec Dieu. Plus il attaque ta relation, plus tu te bats pour la garder et tu creuses de nouvelles dimensions d'intimité avec Dieu. Jusqu'à ce que tu arrives à la dimension du puits qu'on appelle Rehoboth. Une dimension de relation avec Dieu où le diable ne peut plus t'atteindre, où les démons ne peuvent plus te déstabiliser, où les circonstances de la vie ne peuvent plus te déstabiliser, où tes pensées ne peuvent plus te déstabiliser. Tu es arrivé à Rehoboth, une dimension d'intimité très profonde à la source d'eau vive Jésus. Et quand tu arrives à Rehoboth, la Bible déclare que Dieu bénit encore Isaac et il devient fort riche. Avant ça, il n'était pas fort riche, il était riche. Mais quand il a trouvé Rehoboth, il est devenu fort riche. La dernière dimension de la bénédiction d'Isaac, de la prospérité d'Isaac, de la richesse d'Isaac, résultait de la dernière dimension de son intimité avec Dieu. Je dis la dernière dimension de bénédiction, la dernière dimension de prospérité qu'Isaac a reçue à la fin, résultait de Rehoboth, le dernier puits qu'il a creusé, la dernière dimension d'intimité qu'il a atteinte avec Dieu. Plus tu vas loin avec Dieu, plus Dieu t'élève au large. Plus tu vas en profondeur, plus tu creuses en profondeur, plus il te mène au large. Et cette année, ce qu'il attend de toi, c'est ça. C'est que tu creuses encore. Et encore et encore. Oh, les ennemis viendront, ils vont attaquer, c'est pas grave. Mais creuse encore, alléluia. Creuse encore, alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. Lève-nous. Je veux plus de toi, Seigneur. Bien-aimé, je veux plus de toi, Seigneur. Alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Rehoboth. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus je creuse dans mon intimité avec Dieu, plus je creuse dans ma relation avec Dieu, plus Dieu me mène au large. Alors je comprends que mon avenir, mon attitude dépend de ma source, dépend de ma source. Si ma source est celle d'Abraham, alors sera limitée à la source d'Abraham. Mais si ma source est Rehoboth, le puits que j'ai creusé moi-même, oh, je suis sûr et certain que je deviendrai fort riche. Si je continue à boire au puits de Jacob, j'aurai toujours soif. Mais le jour où je comprendrai que maintenant le temps est arrivé de venir boire au fleuve, aux sources d'eau vive. Oui, Seigneur. Oui, quand je comprendrai cela, alors je comprendrai que les fleuves d'eau vive vont jaillir de mon sein et ma vie ne sera plus déserte. Ma vie ne sera plus sécheresse. Ma vie ne sera plus famine. Parce que maintenant, l'Éternel me met au large. Korambala sakatarache ketoroboloche. Corrimbolo sanda caria raba sondo coroshite candabala seke. Oh, sanda caria raba baba. L'Éternel te met au large ce matin. L'Éternel met ta vie au large cette année. Saisis la pensée, elle est pour toi. Ce message est prophétique pour ta destinée. Corriabala sanda kabala sheke tababa kanakaba. Saisis Jésus ce matin. Il est la source d'eau vive. Il n'est pas le puits de Jacob. Il n'est pas le puits d'Abraham. Il n'est pas le puits d'Isaac. Mais il est Rehoboth. L'Éternel te met au large. Et si tu bois de son eau, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau qui jaillira dans toute l'éternité. Alors dis, Seigneur, je désire plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Remplis-moi encore. Restaure ma vie. Ma relation avec toi, renouvelle mes pensées, renouvelle mon âme, change ma mentalité, brise mes limitations. Je veux plus de toi, élargis l'espace de ma tente, étends mes cordages. Je veux avoir une vision lointaine, je veux avoir une vision Rehoboth, une vision large. Oui, élargis l'espace de ma tente, étends mes cordages. Je veux vivre une dimension de Rehoboth dans ma vie. cette année, je vais aller loin. Je désire plus de toi. Plus de ta présence en moi. Plus d'intimité, Seigneur. Plus de consécration. Plus de confiance en toi. Plus de ta parole en moi. Plus de ta révélation en moi. Plus de ton onction. Plus de toi. Plus de ton Saint-Esprit. Je désire plus de toi. Je désire plus de toi. Brise les jougs sur mon corps qui m'empêchent d'aller plus loin, qui m'empêchent de voler plus haut, qui m'empêchent d'aller au large. Je vais aller au large dans ma vie personnelle. Je vais aller au large dans ma vie de couple. Je veux que mon couple aille au large. Je veux que ma maison aille au large. Je veux que mon travail aille au large. Je veux aller dans une dimension de promotion plus grande. Je veux cette année connaître la promotion. Je veux connaître la prospérité dans mes finances. Amène-moi plus haut. Mène-moi au large dans mes finances, Seigneur. Mène-moi au large dans mes projets. Mène-moi au large dans ma famille. Mène-moi au large, Seigneur, au Dieu. Dans mon église, dans mon ministère. Mène-moi au large dans l'œuvre à laquelle je m'appelle. Mène-moi au large. Amène-moi plus loin. Je veux plus de toi. Alléluia. Et Dieu t'écoute. Et quand tu cries à lui, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et si tu désires vraiment plus de lui, lève tes mains vers le ciel. Et dis-le. Dis-le de tout ton cœur, avec les chantres. Confesse ton désir. Aspire à quelque chose de plus profond avec Dieu. Et si tu as péché, ne te culpabilise pas. La grâce aussi est pour toi. Je dis, la grâce est pour toi. Souviens-toi seulement de là où tu es tombé. Repends-toi et repratique tes premières œuvres. Alors l'Éternel reviendra à toi. Et il te sortira de là où tu es. Et il te mènera au large cette année. Oui, Seigneur. Nous voulons voir ton règne. Cette année dans nos vies. Seigneur, tu vois ceux-là qui ont des projets d'entreprise, ceux-là qui travaillent, ceux-là qui étudient, ceux-là qui sont mariés, ceux-là qui cherchent un conjoint, une conjointe, ceux-là qui, Seigneur, oh Dieu, ont des défis dans leur vie. Seigneur, cette année, c'est Rehoboth. Tu les mènes au large.
Parfait.
Mais qu'ils creusent encore leur puits.
Que nos vies soient transformées.
Qu'ils creusent encore leur puits. Donne-leur l'onction pour creuser encore leur puits en profondeur. Qu'ils aillent plus loin avec toi. Plus de consécration. Plus de sanctification. Plus d'adoration. Plus d'onction.
Ma Seigneur. Fais de nous des instruments.
Par ta parole.
Par ta parole.
Parfaite.
Parfaite. Que de vie.
Hey, Jésus. Oh Jésus. Que nos vies soient transformées.
Que nos vies soient transformées.
Tu as besoin de restauration ce matin. Lève ta main là où tu es. Il y a une mesure de grâce pour toi ce matin. Pendant que les chants continuent à chanter, lève ta main. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de transformer. Lève ta main. Il y a des temps de rafraîchissement, de restauration, de régénération pour toi. Et adore le Seigneur. Garde tes mains levées. Nous voulons, Seigneur, Que nos vies soient transformées.
Que nos vies soient transformées.
Que nos vies soient transformées.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.